France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Question, Emmanuel Cesson transporte-t-il sa harpe quand il passe des États-Unis à l'Europe, j'en doute, mais Emmanuel Cesson est en tout cas bien là ce matin avec nous. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous faites comment alors ? Vous avez plusieurs harpes, vous louez ?
Plusieurs harpes. J'en ai une aux États-Unis, effectivement, maintenant à Los Angeles. Une à Paris qui reste ici chez des amis ou collègues pour qui, parce que c'est important qu'une harpe soit jouée pour pas perdre un peu la sonorité de l'instrument. Et j'en ai une qui ne m'appartient pas, mais qui m'est dédiée en Asie quand j'ai des concerts là-bas dans la région. Donc voilà, j'ai trois instruments à ma disposition, mais c'est vrai que les harpistes sont un peu comme les pianistes. Souvent, ils doivent être à disposition de l'instrument, j'allais dire, plus que dans l'autre sens.
Une dans chaque port. Donc après avoir joué au sein de l'orchestre de l'Opéra de Paris, puis 5 ans au Metropolitan Opera de New York, vous avez rejoint l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Mais d'abord, il y a ce disque After a Dream, après un rêve, paru voilà quelques mois déjà chez Nomade Music, disque de musique française, mais pas seulement, avec Frédéric Château à la flûte. Vous serez d'ailleurs, je le dis déjà, tous les deux demain en direct sur France Musique à 16h avec Clément Rochefort dans Génération France Musique, le live au Théâtre de l'Alliance Française sans public, mais avec nos micros en direct. Flûte et harpe qui vont très bien ensemble, comme chantaient les Beatles. C'est d'ailleurs comme ça qu'enfant, vous avez découvert l'instrument en écoutant Rampal et Laskin.
C'est ça, c'était le grand succès Erato qui avait fait son chemin dans tous les foyers, ou beaucoup de foyers en tout cas français. C'était un énorme succès discographique. Et je pense que ma famille n'y a pas échappé. Alors moi, du côté de ma mère, il y avait des amateurs de musique classique. J'avais un grand-père qui était clarinettiste amateur dans une harmonie de Montluçon. Et qui était donc, c'est lui qui m'a vraiment passionné pour la musique classique, j'allais dire. Et j'imagine que ma mère aussi, qui avait fait un peu de piano quand elle a grandi. Et donc, elle écoutait beaucoup le concerto de Mozart, elle, quand elle était enceinte de moi. Donc, la légende familiale voudrait que, quelques années plus tard, quand j'ai pris mes cours d'initiation au solfège, au conservatoire de Lyon, CNR, quand j'ai réécouté cette pièce, l'Adagietto du concerto de Mozart, par Laskin Rampal, donc le même disque, les mêmes interprètes, Lili Laskin et Jean-Pierre Rampal, donc j'aurais peut-être en tout cas reconnu, en tout cas ça m'a marqué de manière très forte, et effectivement la sonorité de la harpe m'a tout de suite attiré, et quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais jouer un an plus tard, c'était ça ou rien.
Et depuis, la harpe, flûte et harpe, vous l'avez déjà fait, vous avez enregistré d'ailleurs le flûte et harpe de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Ici, c'est juste les deux instruments. Avec oui. Frédéric Château, vous êtes rencontré comment ?
Forcément, dans la fosse de l'Opéra de Paris, quand j'y suis rentré en 2006. Je me souviens de la bienveillance de Fred, on s'appelle par nos petits noms. Dans ma première série, c'était, si je me souviens très bien, je m'en souviendrai toute ma vie, Salomé avec Hartmut Henschen. Et c'était à la direction, je précise. Ouais. Et effectivement, la partie de Salomé, c'est deux harpes, mais c'est une partie très chargée. Strauss orchestre de manière toujours très intelligente et il écrit assez bien pour l'instrument. En tout cas, c'est chargé, il y a beaucoup de choses à faire et ça s'entend. C'est bien orchestré. Et je me souviens que j'en menais pas très large, forcément. J'avais 20 ans, 21 ans, donc c'était quand même... 21 ans. Et c'était un gros stress. Et Frédéric a été très bienveillant. D'ailleurs, tout l'orchestre l'a été. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite développé une relation particulière avec Frédéric. Et très vite, on a voulu faire du duo ensemble. Alors que Frédéric n'est pas quelqu'un qui tient une énorme carrière de soliste. C'est pas dans sa personnalité. C'est plutôt lui, vraiment, un échange musical qui l'intéresse. Et donc, on a toujours beaucoup joué ensemble, finalement, dans mes années d'opéra. Et on continue de le faire maintenant. Dès que j'ai l'occasion d'être en France et qu'on peut trouver des concerts... c'est une joie de travailler avec lui à chaque fois.
After Dream, disque chez Nomade Music. On a écouté il y a une heure le titre qui donne son titre à l'album, After Dream, après un rêve de Gabriel Fauré. Mais un Fauré peut en cacher un autre.
Thank you.
La Sicilienne de Gabriel Fauré, la suite PDRC Mélisande avec ici Frédéric Chatou à la flûte et Emmanuel Cesson, notre invité ce matin sur France Musique à la harpe. Ce disque, comment vous l'avez imaginé, conçu tous les deux ?
Alors c'est une histoire assez rigolote parce qu'en fait... à la base, on a enregistré ces pièces pour une application téléphonique qui est là pour les étudiants et qui doivent en fait, qui s'en servent pour comment dire, pour ils peuvent choisir un tempo et jouer et en fait l'accompagnement les suit. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet enregistrement s'est passé en studio, dans deux studios différents. Alors on avait contact visuel avec Frédéric, mais on n'était pas dans la même salle. Et donc on a enregistré toutes ces pièces comme ça. Et ensuite, elles ont été mises sur l'application. Et quand on les a réécoutées ensuite, on s'est dit, Fred, tous les deux, que c'était quand même très très beau. Enfin, moi, vous avez entendu la sonorité de Frédéric, c'est quand même assez exceptionnel, une flûte qui joue comme ça. Et on s'est dit, ce serait trop dommage de pas en
faire
quelque chose. Ah, c'est gentil. Mais là, j'ai plus un rôle d'accompagnateur dans la Sicilienne. Et en fait, voilà, on s'est dit, ce serait trop bête de pas en faire un disque. Et donc, Nomad Music, a voulu la sortie comme ça, de manière numérique.
Avec donc des pièces connues comme celle-ci, celle qu'on a entendue, mais d'autres beaucoup moins.
Nos favoris du répertoire.
Mais oui, mais il y a des choses, on va entendre dans quelques minutes, des choses beaucoup moins connues. Emmanuel Cesson, on va parler de votre vie de musicien dans les orchestres américains, mais là vous êtes en France, en Europe, d'ailleurs vous êtes venu facilement.
Ben écoutez, je suis venu plus facile. L'avion pour Los, c'est simple. Hein, l'avion pour Los Angeles à Paris, il y avait dans un 777, on était 20 personnes. Voilà. Donc il n'y a pas eu de problème, j'allais dire, de risque à prix dans le voyage en avion. Moi, j'ai pas de problème pour rentrer en France parce que je suis italien français, puis pour rentrer non plus aux US parce que je suis en voie d'avoir la carte verte là. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ensuite j'ai été de Paris directement à Helsinki, où en fait c'était la première halte de ma tournée d'Europe.
Vous avez des concerts ?
J'avais donc un récit à l'Académie Sibelius et également des masterclass parce que je suis visiting professeur depuis 2 ans là-bas. Et donc voilà, ben, ça m'a fait plaisir de retrouver des élèves en personne parce que ça faisait depuis le mois de février finalement que j'avais pas eu d'élèves en personne. Et donc ça m'a surpris, le vol Paris-Helsinki bondé, alors que je revenais d'un vol désert Los Angeles Paris, effectivement, voilà, Paris-Helsinki en passant par Amsterdam, je voyais l'avion plein, bien sûr tout le monde, certes tout le monde a des masques, donc il y a une forme de protection, mais j'étais surpris.
Vous sentez une différence États-Unis-Europe à cet égard?
Ah oui, alors enfin je dis ça, les gens ont énormément voyagé pour Thanksgiving aux États-Unis, hein, qui est la semaine où je suis parti, donc les Américains en intérieur, ils voyagent beaucoup, mais c'est vrai qu'effectivement, moi on se sent pas super rassuré, je trouve, dans les vols intérieurs qui sont archibondés comme ça. J'ai aussi pris le métro à Paris 1 ou 2 fois, maintenant je suis plutôt Vélib, parce qu'effectivement c'est quand même assez, il y a aussi du monde, quoi. Même avec des masques, il y a du monde.
Vous êtes venu pour plusieurs semaines en Europe pour des concerts, Emmanuel Cesson. Tout n'est pas tombé, comme on dit, finalement.
Presque tout.
Presque tout.
Donc la Finlande a été maintenue. Là-bas, ils ont un protocole sanitaire strict. Donc j'avais une quarantaine de 3 jours avec un test avant, un test après. Donc les deux tests étant négatifs, j'ai pu entamer ma semaine de cours et la préparation de mon récital. Donc ce qui était très intéressant, c'est que je savais déjà à la base que ce serait une jauge à moitié pleine. Et finalement, ça a été une jauge complètement vide. Mais donc je savais que ce serait live streamé. Donc j'ai préparé un récital exprès pour le live stream, qui est une forme
qu'on peut toujours voir là.
Qui, oui, voilà, qu'on peut toujours voir sur YouTube, le YouTube de la Sibelius Academy. Et effectivement, le live stream, donc je trouve que quand on sait qu'on est filmé, on travaille différemment. Donc j'avais fait un plan couleur avec les artistes lumière de la salle. Le programme était construit autour de poèmes ou de pièces littéraires qui étaient lus par mon mari qui est finlandais, donc en finlandais en direct, et donc il lisait la pièce. Lui, il avait fait l'enregistrement à Los Angeles parce qu'il m'a pas accompagné pendant cette tournée, il a préféré éviter voyager. Et donc les pièces étaient lues et ensuite je jouais la pièce qui illustrait ou qui avait inspiré le compositeur juste après, avec un code couleur et lumière particulier. C'était assez chouette, même si c'était beaucoup de travail et finalement juste pour une fois. Mais j'en suis assez content de ce récital. Et ensuite, donc, 2 autres programmes annulés. Effectivement, le premier, ça devait être à Graz, en Autriche, où je devais jouer le concerto de Reinecke avec l'orchestre symphonique de la ville, qui a été annulé 1 semaine avant. Et puis là, j'aurais dû être ce soir et demain matin à la Philharmonie pour un concert de Noël, et qui a été annulé la semaine dernière, voilà, faute de public.
Et vous êtes sur France Musique ce matin, et demain à 16h, vous jouerez avec Frédéric Chatou en direct de l'Alliance Française chez Clément Rochefort.
C'est exact.
Emmanuel Cesson, les concerts comme celui dont vous parliez à Helsinki, des concerts donc de solistes, on en donne autant en Europe, aux États-Unis, le rapport des organisateurs de concerts à la harpe comme soliste, il est le même ?
Il n'est pas vraiment le même pour plusieurs raisons. La harpe est un instrument très joué, mais qui est surtout un instrument qui est considéré comme un instrument presque, j'allais dire, de salon. En tout cas, il y a énormément de harpistes qui font des mariages ou des après-midi dans des cafés ou ce genre de choses, un peu du divertissement, j'allais dire. La harpe en récital...
Tradition anglo-saxonne, peut-être.
Oui, peut-être, ouais. Mais je pense que la harpe en récital est rare, mais elle est rare partout. Hein. On est peu de harpistes à faire des récitals en France ou même, je veux dire... en Europe, c'est quand même pas quelque chose de très fréquent. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je trouve que l'harpe a un répertoire à défendre, une sonorité à défendre, et même des transcriptions qui fonctionnent très bien. Là, moi, sur mon récital à Helsinki, j'entame par la suite Bergamasque. C'est vrai que c'est un vrai morceau de bravoure pour nous, alors que pour les pianistes, c'est les doigts dans le nez, normalement. Mais en même temps, voilà, j'aime bien montrer que la harpe, peut se dépatouiller de ça et être un instrument qui chante autant que le piano, ou même peut-être plus.
Quand vous êtes aux États-Unis, Emmanuel Cesson, vous vous sentez un peu ambassadeur aussi de la musique française ?
Ah oui, alors de toute façon, la harpe, mine de rien, reflète la France de manière très certaine. La harpe à double mouvement a été inventée par Sébastien Erard en 1812, et ensuite son répertoire s'est énormément développé à la fin du 19e par l'entremise de beaucoup de harpies français, ou un belge, Alphonse Hasselmans, qui est un peu notre grand-père à tous, parce qu'il était enseignant au Conservatoire de Paris à la fin du 19e. Mais donc tous les grands harpistes qui ont été formés à cette période, c'est des Français qui ont irradié après partout aux États-Unis. La harpe aux États-Unis, c'est dû à deux harpistes français, Carlos Salcedo et Marcel Grangiani, qui ont tous les deux émigré, le premier dans les années 20, le deuxième à la fin des années 30, dont un est devenu professeur à Curtis, l'autre à la Juilliard School à New York, et effectivement ils ont créé l'école de harpe américaine. Donc la France rayonne dans la harpe dans le monde partout, et surtout aux États-Unis effectivement.
Autre extrait et autre musique française sur ce disque After a Dream, voici une suite en duo de Jean Kras. On prononce bien le S, la famille nous l'a dit et redit.
Thank you.
modéré, deuxième mouvement de la suite en duo de Jean Crasse avec Frédéric Chatou à la flûte, Emmanuel Cesson à la harpe, qui est notre invité ce matin. Le disque s'appelle After a Dream, après un rêve, est paru chez Nomade Musique. On a parlé de cette période déjà, Emmanuel Cesson, vous êtes dans un orchestre désormais, l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, après 5 ans au Maître, au Metropolitan Opera de New York. Pourquoi l'avoir quitté? C'était avant le Covid.
Alors oui, de toute façon, j'ai eu le nez, j'allais dire, c'est pas drôle de dire ça, mais comment dire, vous savez que j'ai commencé ma carrière à l'Opéra de Paris quand j'avais 20 ans, donc il y a maintenant 15 ans. Donc j'ai été un musicien de fosse pendant très longtemps. J'ai quitté l'Opéra de Paris parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, je pense aussi un peu de quitter la France pour plein de raisons. Et le Met, c'était un peu le pinacle de l'opéra. Donc j'ai vécu ces 5 ans de manière très intense. Le planning, rien à voir avec l'Opéra de Paris. 3 fois plus de travail, j'allais dire. Ensuite, beaucoup plus de répertoires passés en revue. Je pense que j'ai vu plus de répertoires en 5 ans au Met qu'en 10 ans à l'Opéra de Paris. Et donc, ça a été très chouette. Ça a été un tourbillon. Mais en même temps, je pense que j'avais l'envie de goûter autre chose au niveau du travail en orchestre. Parce que le travail de fosse est génial et apprend énormément de choses. Mais j'avais envie d'approcher un autre répertoire. Je pense aussi que j'avais l'impression, en fait, après 5 ans en mai, d'avoir fait finalement en 15 ans le tour du répertoire très important de la harpe dans l'opéra. Et donc, j'avais envie de goûter à autre chose. Et donc, ce poste s'est présenté à Los Angeles. Dudamel venait de faire Othello avec nous la saison précédente 2019 au Metropolitan Opera. Et effectivement, voilà, le concours s'est présenté. J'avais quelques collègues qui avaient déjà été transfuges. Trois, en fait. Whitney Crockett, qui est basson solo. Denis Bouriakov, qui est flûte solo, qui passait du Met à Well & Field. Et enfin, Boris, qui était clarinette solo et qui est clarinette solo maintenant au L.A. Phil. Donc voilà, j'étais le 4e transfuge. Et donc, la transition s'est passée, malheureusement, pendant l'année de Covid. Mais bon.
Vous avez passé un concours à 35 ans, un nouveau concours, derrière des paravents.
C'est ça, paravent, 75 totale. Personnes pour une place. Bon, j'ai l'habitude du concours, je pense que je gère ça plutôt assez bien. Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut en ressortir, hein. On ne sait jamais finalement ce que les gens attendent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc 3 tours, et normalement la finale n'est ouverte qu'à la finale est coupée en 2. Donc, elle est derrière paravent une première partie, deuxième partie ouverte. Moi, je suis arrivé déjà directement au deuxième tour parce que avec mon postomètre, effectivement, j'ai pas eu à passer les préliminaires. Et en finale, en fait, ils ont décidé de pas ouvrir le paravent et ils m'ont choisi directement à l'aveugle. Donc c'était une vraie, j'étais vraiment choisi de manière légitime.
Après, presque un show télé à l'américaine. On ouvre le paravent et on voit apparaître The Voice
version LA Phil, c'est ça.
Mais vous avez pu jouer depuis septembre avec le.
Oui, alors on a fait
l'harmonique de Los Angeles.
Oui, alors eux suivent de manière extrêmement forcément précise toutes les recommandations, surtout en Californie. Là, c'est terrible. Les chiffres sont encore plus terribles qu'au mois de juillet. Mais ils étaient très impactés au mois de juillet, donc tout a été fermé pour eux depuis le mois de mai. Et on a maintenu des projets parce qu'on a la chance d'avoir une salle en extérieur qui s'appelle le Hollywood Bowl et le climat à Los Angeles le permet. Il fait toujours très 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 beau. Même au mois de, on a enregistré au mois de novembre, il faisait encore 15 degrés. Alors c'est pas si chaud que ça, mais on peut quand même se débrouiller. Et effectivement, on a fait donc un ensemble de programmes vidéo qui s'appelle Soundstage, qui est visible sur le site du LA Phil, qui est une manière de montrer un peu le métier d'orchestre de l'intérieur. Donc on avait des caméras sur scène avec nous qui le filmaient de très près, un peu à l'initiative de ce que j'avais pu faire au Met avec mon portable sur le pupitre. Et quand je publiais sur les médias sociaux, sur Instagram, des photos de la fosse du Met, c'était un peu cette idée, voilà, de partager intimement l'orchestre dans ces ensembles de vidéos soundstage. Donc on en a fait 3 depuis août, et là on va en reprendre, je pense, dans la deuxième partie de l'année, avant qu'on rouvre, en espérant, Hollywood Bowl en juillet prochain.
Emmanuel Cesson, à l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, vous êtes donc payé.
Eh oui.
Contrairement à vos ex-collègues de New York,
c'est terrible, je suis vraiment super malheureux pour eux. Bon, effectivement, c'est...
Il y a une vraie hémorragie là en ce moment. Hein.
C'est terrible. J'allais dire que les Français ne goûtent pas leur chance. Moi, je lis beaucoup parce que je suis les médias et ce qui se passe en France. Et effectivement, je comprends que les musiciens français soient malheureux de ne pas pouvoir être sur scène, de ne pas pouvoir répondre au public, etc. Mais ils ne connaissent pas leur chance, entre guillemets. La logique aux États-Unis étant une logique de privé-privé, la billetterie a un impact très important sur le budget de n'importe quelle maison. Alors, je sais qu'à l'Opéra de Paris, c'est le cas aussi, mais il y a le coussin de sécurité des pouvoirs publics et du ministère de la Culture qui sont là pour appuyer et soutenir. C'est pas du tout le cas au Met. Au Met, l'argent vient en grande partie de la billetterie, puis des donateurs privés. Les donateurs privés sont souvent des gens qui voilà, estime que si on ne travaille pas, on ne doit pas être payé. Puis c'est un peu la logique à l'américaine. Donc je pense que Peter Gelb n'a pas eu trop le choix.
Le directeur du Met.
Ouais, le directeur général du Met, de faire passer les LAS, tous ces salaires à zéro. Parce que déjà, la situation financière du Met n'était pas reluisante avant même que la pandémie commence. Hein, je veux dire, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de ça, mais nous, de l'intérieur, on voyait déjà que les budgets étaient ric-rac. C'est une maison qui consomme énormément d'argent. Et voilà, compter sur le donateur, c'est très bien. Mais effectivement, là, la pandémie a accéléré, je pense, la descente aux enfers d'un point de vue financier. Et je pense que la décision de Peter Gelb a été celle qui devait prendre aussi vis-à-vis de son board et de ses investisseurs. C'est donc pas du tout le même calcul, finalement, j'allais dire, aux États-Unis qu'en France. On est dans une autre logique. Voilà. Ensuite, c'est terrible pour les musiciens du Met. Ça a été terrible pour moi qui ai arrêté d'être payé depuis le mois d'avril. Et voilà, j'ai eu la chance. Mais enfin, quand on réfléchit à un orchestre symphonique et un orchestre et une maison d'opéra, ça n'a juste rien à voir. Regardez le budget d'un orchestre symphonique. On est dans la centaine, peut-être 150 millions, j'allais dire, par an. Le Met, c'est trois fois ça, ou deux fois et demi ça. Voilà, plus, il y a beaucoup plus d'artistes à payer dans un opéra parce que vous avez le chœur, l'orchestre qui est plus gros, qui a un plus gros roster. Bref, voilà, quand on fait un budget, c'est à la fin, on n'arrive pas au même compte, quoi.
Vous vous souvenez de votre dernière fois au Met?
Eh bien oui, c'était donc mois de mars de cette année. Le vaisseau fantôme avec Gergiev, et effectivement, c'était, je pense, on a même pas fait la deuxième captation. En fait, le Met a fermé, je pense, le 12.
Une captation le 10 mars, et c'était enregistré.
C'est la pré-captation, en fait, mais donc qu'on a gardé et que vous entendez là maintenant.
Qui a été diffusé par France Musique. Voilà, des applaudissements qui manquent. C'était le 10 mars 2020, Valéry Gergiev à la tête de l'orchestre du Metropolitan de New York. Et vous avez entendu Emmanuel et ses sons à la harpe. Il fallait vraiment choisir le bon moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de harpe.
Oui, il faut tendre l'oreille. Dans le vaisseau fantôme, c'est à nos opéras. J'allais dire, les harpistes, on quitte la fosse juste après l'ouverture. Après, on va regarder un film au cinéma. Ça m'est même arrivé de le faire à l'Opéra de Paris. Et on revient pour le dernier arpège, 2h30 plus tard. Voilà.
Emmanuel Cesson, l'homme qui dit tout. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique. Voilà. On vous retrouve demain à 16h avec Clément Rochefort.
Ben merci Jean-Baptiste de m'avoir reçu, c'était un plaisir et merci à tous les auditeurs.
À réécouter sur francemusique.fr.